Le prix du gros.com en collaboration avec Kia Cap Santé et le méga Donnacona Chrysler présente jusqu'à dimanche le plus gros salon du véhicule d'occasion au Québec. Dans l'aréna de Donnacona, plus de 850 véhicules prêts à être livrés. Le salon des véhicules d'occasion, c'est toujours le prix du gros. À seulement 20 minutes de Québec, entrée gratuite.
La référence automobile, gestionlac.com,
Chef de file en véhicule d'occasion sur la Rive-Sud depuis 20 ans.
GestionLac.com s'installe à Québec.
Désormais, trois adresses. Saint-Nicolas, Saint-Étienne et maintenant à Québec. Boulevard Amel, angle Robert Bourassa, ancien local BMW.
Comparé avant d'acheter.
Service et passion. La référence. GestionLac.com.
Parce que mon café, c'est chez Tim puis pas ailleurs.
Parce qu'il est frais fait toutes les 20 minutes.
Ben, c'est pour ça qu'il est si bon.
À cause? Ben, je retrouve ma gang là chaque matin devant deux laits, deux sucres, puis un bon petit matin.
Parce qu'avec leur sandwich déjeuner au blanc d'œuf,
on peut partir la journée du bon pied.
Parce que j'aime ça, toujours prendre la même affaire, puis ma serveuse Mimi, elle sait.
Parce que leurs croutons sont presque aussi bons que les miens, ça, c'est pas peu dire.
Parce que ça fait plus de 45 ans qu'on vous sert à déjeuner. Parce qu'on aime ça, faire partie de vos matins. Tim Horton, toujours frais. Toujours vrai.
Le prix du gros.com en collaboration avec Kia Cap Santé et le méga Donnacona Chrysler vous présente jusqu'à dimanche 17h le plus gros salon des véhicules d'occasion au Québec pour seulement 6 jours dans l'aréna de Donnacona, sortie Donnacona de l'autoroute 40. Plus de 200 véhicules de toutes marques à des prix incroyables. En tout, plus de 850 véhicules prêts à être livrés. Courez la chance de gagner le gros lot du gros. 77 000 $ en argent non imposable. C'est à l'aréna de Donnacona que ça se passe. Le salon des véhicules d'occasion. Toujours le prix du gros. À seulement 20 minutes de Québec. L'entrée est
Les petites annonces du soleil. 3 jours, 3 lignes, 15 $. Profitez de notre offre printanière. 3 jours, 3 lignes, 15 $ pour vendre ou acheter tout ce que vous voulez. Les petites annonces du soleil. 418-686-3311. Certaines conditions s'appliquent.
Prémont Harley-Davidson, en ce début de saison. Mais là, malgré le début de saison, on a mis slack et ça. Les vrais moteurs, ça fait longtemps qu'on est qu'on a pris la route. Mais vous avez toujours rêvé d'une Harley-Davidson. Vous savez quoi? En 2012, les prix d'une Harley-Davidson n'ont jamais été aussi bas de toute leur histoire. Alors, si vous avez envie d'avoir une Harley-Davidson, à Québec, il y a un seul nom, c'est Prémont Harley-Davidson. Voilà pourquoi il faut aller faire un tour. Mais je vous le dis, mettre les pieds chez Prémont Harley-Davidson, c'est de se donner la piqûre de la moto. Ça, c'est clair, net et précis. 60 modèles en démonstration. Il y en a un qui va vous piquer au cœur. C'est certain. Je le sais. J'en suis victime. Même chose pour le service. Pour également la boutique, là, avec les vêtements pis tout. C'est vraiment full, full, full équipe. Prémont Harley-Davidson, 2495 Boulevard Amel Ouest. www.prémontharley.com.
Du bon choix, 98.1. Radio X. Du bon. Dupont, le midi, zizi.
Il est midi 40 minutes. Vous êtes dans Dupont le midi, peut-être la dernière de son histoire dans la forme actuelle.
Ouais, parce que... pas de son histoire, mais pour un bout, là.
Non, mais si, mettons, il t'enlève...
Juste congédié au mois d'août.
Pas congédié, maudit paix, tu sais bien, qu'ils vont te mettre dans une autre émission, parce qu'on est inséparables. Il y a un auditeur qui m'a écrit en fin de semaine là-dessus, où on était, où on est devenu...
Mais ça me fait de quoi, pareil, juste de savoir que, hey, on se verra plus pour... un bout, là, pareil. C'est ouais, mais tout quasiment mois, 3 mois.
Pendant que tu vas être en vacances, si tu restes à Québec, tu souches déjà dans tous les matins.
Ah non, ben, puis on va, je vais passer le voir chez vous, là, profiter de ta piscine un peu.
Non, c'est pas nécessaire.
Mais tes amis, ils vont tout le temps.
Mes amis.
Sans cogner.
Oui, oui, je sais. Mais non, on fait bien des farces. C'est sûr que on va avoir la chance de se faire un beau party. Puis je veux faire un beau party avant qu'on parte en vacances. Une belle soirée.
Tu vas se faire une crémaillère?
La maison?
Ouais.
Ben là, je sais pas, oui, mais il va falloir qu'elle finisse par finir. Là,
oui, que ça va arriver.
J'étais un peu, pour cette dernière aujourd'hui, avant les longues vacances de Des, puis les miennes qui vont suivre, j'étais un peu stressé parce qu'on m'avait bien averti ici que la direction de Radio X, avec M. Demers en tête, allait faire venir un polygraphe. Et au moment où nos collègues du matin, deux filles le matin, avaient préparé une série de questions et on allait me passer au polygraphe, et j'étais un peu tendu d'entendre les questions qu'on allait me poser et également de la façon auquel je vais y répondre. Mais sérieux, je devais le faire, mais là, finalement ça va être un peu compliqué, mais on va en parler longuement. C'est un peu stressant, me semble, d'apprendre qu'on va passer le polygraphe, puis pas que j'ai rien à cacher, rien. Puis Je donne toujours le même exemple que je suis incapable de m'expliquer. Je vais aller aux États avec mes enfants, là, mettons, cet été, comme à chaque année. Vous savez, je passe les douanes 8-10 fois par année. Ben, je vais prendre demain, je pars pour Londres, là. Mais arrivé aux douanes, je sais pas pourquoi, mais m'être nerveux. Pourtant, j'ai pas de
même
drogue.
Même si
t'as rien.
Jamais. As-tu de quoi cacher aux douanes? Des fois, je suis revenu avec de la boisson comme les autres, là. Tu sais, avec peut-être 4-40 onces, là, mais...
Au lieu de deux.
Ouais, tu sais, t'as pas pour exploser le pays, c'était, hein? T'as pour me mettre chaud. C'était pas le même but, là.
Mais je suis stressé des fois juste de passer dans un détecteur de métaux, pas de métaux, mais de... dans les magasins, là. Et pourtant, j'ai jamais rien volé, là.
Ouais. Ça vous stresse?
J'ai peut-être oublié de quoi, je t'oublie eux, à un moment donné, ça va sonner l'oreille. Genre, putain, ben ouais, c'est vrai, j'avais ça, je l'ai oublié, n'importe quoi.
Souviens-toi quand je t'ai raconté au marché Carrier qui arrêtait deux personnes par jour qui faisaient du vol à l'étalage au moment, les deux premières semaines où ils installaient le système de détection. Deux par jour. Je te le jure que la première fois que je suis allé, parce que moi, j'aime avait compté ça au téléphone, puis la première fois que je suis allé, je suis passé avec un petit stress de, je vole rien, je Carrier, voyons.
Ouais, je comprends beaucoup ça. T'es...
Mais parce que ça pourrait sonner par erreur, puis là, ah, c'est nous qui, tu sais, je sais pas.
Ça arrive des fois que tu passes puis que ça sonne puis là, ils ont oublié de démagnétiser quelque chose.
Ouais, c'est ça.
Donc, pour en parler avec nous, est-ce que de passer le polygraphe, c'est un stress? Il est lieutenant de la Sûreté du Québec à la retraite, policier en enquête criminelle de haut niveau, spécialisé pendant les 16 dernières années de sa carrière dans le domaine de l'interrogatoire des suspects, des crimes majeurs, dont 8 ans en tant que polygraphiste, pardon. Alors, Monsieur Jacques Landry, Monsieur Landry, bonjour et bienvenue à Québec.
Bonjour. C'est un plaisir d'être ici.
Parce que c'est ça, vous êtes le propriétaire et vous êtes à la tête de Polygraphie Jacques Landry, donc c'est un commerce ou une entreprise où vous passez des tests de polygraphe entre autres.
Entre autres, oui. Principalement quand on fait affaire pour déceler si des personnes peuvent être impliquées dans différents événements où on a des doutes là, sérieux.
OK. Ouais. Là, vous avez fait ça pour la police pendant plusieurs années. Vous êtes spécialisé dans ça. C'est-tu normal de dire, tu sais, moi, c'était pour le fun, si on l'avait fait aujourd'hui, c'est-tu normal que je sentais un peu de stress de faire ça?
Tout à fait normal. Il y a deux choses, par exemple, qui rendent quelqu'un stressé ou nerveux. La première, c'est la peur de l'inconnu. La polygraphe, c'est comme pour bien des personnes, on a vu ça dans les médias, on a vu ça un peu dans certains films, puis c'est des films qui ont romancé ça un petit peu, ils ont mis ça plus lourd que c'était. Donc, la peur d'inconnu, c'est la première des choses. La deuxième chose, ben, c'est la peur que la vérité surgisse, puis de faire face aux responsabilités qui vont avec. Ça aussi, ça peut créer de l'impact. Mais c'est tout à fait normal pour n'importe qui de dire, ben moi, je passe un examen polygraphique, quelle question qu'on va me demander, puis est-ce que c'est juste le stress qui va réagir? Sauf que oublions pas que l'examen est bâti d'une façon à détecter ce qu'on appelle le stress normal, l'anxiété de passer l'examen, et le résultat d'une réaction de mensonge qui est complètement différente. Différente.
Parce que moi, je pense que je suis soupçonné de meurtre, là. Puis je l'ai pas fait. Mais vous allez me poser, puis j'ai l'impression plein de questions bien banales, puis à un moment donné, ça va être avez-vous tué une telle? Mais là, non. J'ai l'impression que toutes mes flèches, même si je l'ai pas tué, vont aller dans le maximum. Je dis, OK, là, c'est la réponse qu'il veut.
C'est dans un cas de drame familial, mettons, entre autres, des fois, on voit ça. Tu sais, le gars, il a pas tué sa femme, mais sa femme est morte, mettons, peu importe, là, il doit être.
Mais oubliez pas que, justement, c'est une perception, mais les questions avant d'arriver à vous tuer votre femme, là, ils vont être demandés seulement après que ces questions-là vont avoir été préparées et revisées avec lui. Et c'est toutes des questions qui se répondent par où ou non. Il n'y a pas de questions surprises ou attrapes, là. C'est tout.
Qu'est-ce que vous voulez dire? La personne qui est testée a lu ou a entendu les questions au préalable?
Il y a une partie qu'on appelle pré-examen dans laquelle on va vérifier premièrement s'il est apte physiquement, psychologiquement. On va lui demander sa version des faits. On va structurer les questions. On va reviser les questions avec lui. Donc, déjà là, la nervosité de la question, il peut pas l'anticiper. Il l'a déjà entendu. Il sait très bien vers quelle question on se dirige. Donc, ce fardeau-là, là, cette anxiété-là, sera pas là du tout.
Vous, quand vous commencez votre carrière avec ce type d'appareil-là, ça devait être les premiers balbutiements, ça devait commencer les
Moi, polygraphes. j'ai connu les fameux polygraphes qu'on voit là, dans les films avec le papier qui sort à l'autre bout puis les plumes qui se promènent un peu partout. Mais ça fait déjà 25 ans que ça n'existe plus. Là.
Okay.
Aujourd'hui, c'est tout informatisé. C'est un ordinateur qui a un programme spécifique et tous les graphiques sont imprimés.
Mais est-ce que la lecture, elle, a changé? Est-ce que ça s'est précisé? Est-ce que c'est rendu infaillible? Est-ce que ça a changé?
De là à dire que c'est infaillible, non, mais c'est beaucoup plus précis et ça évite la marge d'erreur. On dit que le taux d'efficacité dans le moment est au-dessus de 95%. Ce qui nous donne un petit peu de marge d'erreur, c'est les états de santé ou les états psychologiques de quelqu'un qui pourront être préoccupé ou perturbé par soit la médication ou encore d'autres événements. Parce qu'on rencontre quelqu'un pour un incident, mais il a peut-être fait trois autres avant.
Okay.
Ça, il va être concentré ces trois autres, puis on va avoir de la difficulté. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite marge d'erreur encore.
Mais donc, si ce que vous voyez quand une personne ment, c'est pas que le stress, puis on le prend par surprise, puis vous disiez une personne qui est comme en train de faire son mensonge, mais qu'est-ce qui se passe dans son cerveau qui est différent de quand il dit la vérité, puis que vous voyez sur votre appareil?
Ce qui se passe dans son cerveau, ça s'appelle, on appelle ça nous autres, le syndrome de combat et fuite. Ça veut dire que quand tu poses un geste, là, puis que tu sais que toi-même, là, tu veux repousser l'échéance d'y faire face, c'est parce qu'il y a des responsabilités, un geste qu'on pose, hein? Aussi lourd que le meurtre, que le vol. Mais là, la personne, elle a peut-être déjà menti, je sais pas comment de faire, avant de nous rencontrer. Elle-même a créé ce syndrome, qu'on appelle syndrome de combat et fuite. C'est-à-dire qu'elle a deux options. Elle fait face à la situation à la règle, ou deux, elle s'enfuit dans le temps. Le mensonge nous permet de gagner du temps. Mais rendu devant nous, le gagner du temps, il n'y en a plus. Elle sait qu'avoir menti, donc l'anxiété est à son maximum. La réaction, c'est une réaction de mensonge et non pas une réaction d'anxiété. Et les glandes surrénales, là, qu'on a sur nos reins, aussitôt qu'on ment, c'est déclenché. Et ça, les glandes surrénales, en faisant ça, ça s'en va au cœur, le cœur accélère, le rythme sanguin accélère, la respiration accélère. Et toutes ces, on a cinq composantes au niveau physiologique qu'on enregistre. Et c'est ces graphiques-là qui sont donnés. Système nerveux involontaire, il n'y a personne qui peut contrôler.
Mais quelqu'un qui ment toujours sur le même sujet, puis il a juste fait ça, ça devient pas un peu sa réalité, puis ça...
Mettons un politicien,
mais c'est pas quelqu'un qui...
La preuve avec les politiciens, vous regardez le sondage, le pourcentage de personnes qu'on les croit, là, sont au plus bas qu'on y a jamais existé.
Oui.
Fait qu'on n'a pas moins de polygraphes pour savoir qu'on a de la difficulté avec leur discours.
C'est vrai.
Je pense que vous avez vous-même, chaque citoyen, son petit polygraphe.
Mais c'est ça, on était supposé passer Steph au polygraphe ce midi, puis là, quand Monsieur Landry est arrivé, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué, ça prend beaucoup d'espace et tout. Puis là, je disais, moi puis Ness, on a prévu une couple de questions à y poser, puis il disait, ça marchera pas nécessairement parce que dans sa tête, à lui, il est convaincu de ça, tu sais.
OK.
Fait que c'est ça.
Donc, j'aurais été dur à lire.
Ben, c'est ça que Monsieur Landry me disait.
Effectivement.
Là.
Parce que si vous avez déjà une perception, sauf qu'il y a une seule personne à qui on peut pas mentir, hein, c'est à soi-même. Ça, là, soyons logiques là-dessus. Et là, le polygraphe, il enregistre ce qu'on appelle des réactions au système nerveux involontaire. C'est pas la voix, là. C'est la réaction au système nerveux. Fait qu'automatiquement, il va prendre sa place pareil.
Okay.
C'est très fiable. Il n'y a rien que pour...
Vous gardez quand même un 5% à cause, entre autres, des gens qui peuvent être des maladies mentales, médication.
Médication ou encore, comme je disais tantôt, je rencontre quelqu'un pour un événement, disons, pour une agression sexuelle, mais il en a déjà fait 4 autres avant. Moi, j'essaie de lui amener sa concentration sur le dernier, mais lui dit, je n'ai fait 4 bien pires que celui-là. Je vais arriver avec une zone grise. Et c'est lui qui tombe dans le 5%.
Est-ce qu'on peut se convaincre que, en se préparant, parce qu'on voit beaucoup de films, là, mais que oui, c'est non, puis que non, c'est oui, à un moment donné, en se pratiquant plein de fois, puis à un moment donné, ça devient, on se ment plus parce que
nos blondes, ils sont tous dans la même, des fois. Ils sont sûrs qu'ils ont vu quelque chose. Ils sont sûrs.
Ils sont prêts à parier ce qu'ils veulent.
Ouais, ben, ça, vous pouvez essayer ça, mais habituellement, je dirais que vos blondes, vos conjoints, c'est probablement les meilleurs détecteurs de mensonges qu'il n'y a pas. Il faut faire attention parce que vous autres, même, puis regardez bien l'exemple. On dit tout le temps que le mensonge, on le prépare. Hein? Mais ce qu'on prépare pas, c'est ce qui allait juste avant ou juste après. Fait que la personne a juste à vous demander, bon, tu me dis que tu es allé à telle place. OK, qu'est-ce que tu faisais juste avant? Avec qui tu es allé? On va aller dans les questions qu'on va aller avant, puis la personne va être toute déboussolée parce qu'elle n'a pas préparé ce bout-là.
Okay.
Ça se prépare pas, ça, ce bout-là.
J'ai une maudite bonne question là, qui vient d'arriver d'un auditeur. Il me dit, le 5% là, du jeu, là, c'est-tu 5% de monde, de menteurs que vous pognerez pas? Ça peut-tu être quelqu'un qui a vraiment rien fait, mais qui est tellement... excité puis mêlé que vous allez dire, hey, c'est lui ou ben il ment?
Non, ça pourrait arriver ce qu'on appelle des faux positifs, des faux négatifs. C'est extrêmement rare. Le polygraphiste lui-même, par sa formation, va être capable d'identifier la personne, justement, qui est comme vous venez de dire, là, que c'est soit très, très anxieux ou encore il y a un problème au niveau de pharmacologie ou autre. Là.
Okay.
On va être capable d'identifier.
Est-ce qu'un agent secret super entraîné peut réussir à...
à
vous flouer?
Votre question est super bonne. On est, nous autres même, les polygraphistes, on a une formation pour essayer de justement de battre, en bon québécois, battre la machine. Mm-hmm. Mais ça dépend. Il faudrait que le polygraphiste de l'autre côté il soit endormi complètement. Parce qu'on va le voir. Okay. On va le voir.
OK. Là, un polygraphiste comme vous, là, ouais. Vous faites pas juste lire les rapports que l'ordinateur vous imprime. Non, non. Votre pif. Moi, vous savez que j'ai un pif incroyable. J'haïs ça parce que je me trompe quasiment jamais. Tu sais, moi, je détecte.
Non, mais je te le donne. Tu te le donnes facilement, mais c'est vrai que.
J'ai le pif des fois.
Le pif accrocheur,
Mais. Donc, vous, là, votre pif, vous servez-vous de ça aussi?
Oui, c'est bien certain que le pif nous sert, sauf que les graphiques, on doit quand même, on dit tout le temps à l'école, on dit de se fier aux chartes. Mais je dis toujours, il y a trois éléments à quoi... Tu te fies à ton examen, tu te fies au fait au dossier et tu te fies au comportement de la personne pendant qu'elle est avec toi. Okay. Un examen polygraphique, le minimum, là, c'est 2h30, 3h. 3 heures de temps avec une personne, là, t'apprends à déceler en quelque part si cette personne-là là, est cohérente dans ses propos, est évasive ou quoi que ce soit, puis le comportement, il est en conformité avec le verbal et le non-verbal, tout va ensemble. Hein.
OK. Est-ce que, ça a évolué, vous l'avez dit tantôt, malgré que les résultats et la lecture restent la même, et l'efficacité est quand même là. Puis moi, je me souviens d'avoir lu là-dessus, puis c'est au moment où on avait pensé vous inviter, je pense que ça faisait un petit bout qu'on avait fait des démarches, et je me disais... Je me souviens pas dans la cause à ce moment-là là, où j'avais entendu parler de vous, puis je me disais pourquoi on n'utilise pas assez. Est-ce que avant de parler de votre carrière d'aujourd'hui, quand vous étiez dans la police, vous auriez aimé être utilisé plus puis mieux. Tu sais, il me semble qu'on, tu sais, on est à Québec là, c'est le procès du juge de Lille. Là.
Ouais.
Pluguez-moi le juge, puis dites-moi là, ça va prendre 3 minutes, puis c'est réglé, là, pas 3 semaines de procès.
Ouais, je vous comprends, puis hein, comme citoyen, j'aurais probablement la même perception que vous. Mais au niveau légal, puis faut penser à notre charte là, puis à tout ça, les droits. Le premier droit constitutionnel n'importe qui, c'est d'avoir le droit de refuser l'examen. L'examen sur base volontaire. On peut pas forcer personne. D'un, en forçant quelqu'un, on n'aurait pas des réactions souhaitées, la première des choses. Et deuxièmement, je tiendrais pas non plus qu'un instrument vienne remplacer un être humain qui va entendre l'ensemble du dossier, comme je vous disais tantôt, il va écouter toutes les preuves. Je suis un petit peu le dossier que vous avez parlé tantôt. Ben, il faut écouter tous les éléments de preuve, hein, tous les spécialistes, les autres experts dans différents domaines. Ça pourrait être un élément supplémentaire s'il avait passé l'examen, mais on n'a pas. À date, je sais même pas s'il a été interrogé. Je présume qu'il l'a été. On va entendre sa version. Et après ça, on verra, ben, ce qu'il va amener comme élément de défense. Oubliez pas qu'étant accusé comme il est dans le moment, il a même le droit de pas présenter de défense.
Mais honnêtement, les enquêteurs, entre moi puis vous, les enquêteurs, ils croient-tu au polygraphe?
Ah, je comprends donc.
Oui. C'est drôle, j'ai l'impression, ah, toi puis tes machines, j'ai des fois, j'ai ce feeling-là, non?
Oubliez ça. Je vais vous donner un exemple, les derniers, puis je suis encore en relation avec le polygraphiste, la Sûreté du Québec. Juste la Sûreté du Québec, on officie dans au moins 400-500 demandes par année. Et ça, c'est au niveau des crimes majeurs. Imaginez-vous comment est-ce qu'il y en a.
Okay.
C'est énorme.
Vous, OK, là, vous êtes sorti de la police, mais vous travaillez pour la police des fois.
Ça peut arriver à l'occasion.
Mais ils ont les leurs.
Oui. Ils ont les leurs. Ils ont de très bons polygraphistes formés, puis il y a de la relève, puis c'est bien correct comme ça. J'ai suffisamment de travail dans le privé sans aller à...
Bon, parlons-en du privé.
Oui.
C'est qui votre client? C'est le gars, là... Qui arrive à la maison puis que sa femme est tout le temps un peu trop de bonne humeur puis il soupçonne.
S'oublier ça, je fais pas ça.
Non.
Premièrement, si
José avait retenu le numéro.
Parce que nous on pensait qu'on avait une collègue ici qui voulait faire passer son chum au polygraphe.
Non, ça, il y a des personnes qui appellent pour ça. On dit tout le temps, essayez de régler votre problème entre vous deux ou consultez des spécialistes, un psychologue ou autre personne.
Ben, dites de fouiller dans le cellulaire de son chum à votre collègue, à votre collègue.
c'est un bon détecteur.
Non. Moi, dans le privé, c'est plutôt des firmes importantes, que ce soit des firmes d'avocats ou des firmes paragouvernementales, ça peut être des ministères, des autorités.
Mais dans quel but?
Dans le but de justement des vols à l'interne, des choses extrêmement importantes, l'espionnage industriel. Tout récemment, là, je viens d'arriver là, un mandat à l'international, vérifier des allégations ou des implications probables de personnes dans l'explosion de certaines choses.
OK, donc, oui, vous êtes allé au Congo, là, c'était dans les journaux d'aujourd'hui.
Ouais.
Donc, il y a eu une explosion, ça a fait 300 morts.
Ouais.
Donc, vous avez été amené là-bas comme quoi, comme témoin?
Comme expert en entrevue interrogatoire et en polygraphie.
Okay.
Parce qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées où j'ai fait des interrogatoires seulement et d'autres où j'ai dû utiliser le polygraphe à savoir le niveau d'implication.
OK.
Parce que c'est un dépôt de munitions qui a sauté. Comme vous disiez, plus de 300 morts, il y a plein, des milliers disparus, puis 5000 personnes évacuées.
OK.
C'était terrible. C'est,
On avait vu les images de ça. C'était une destruction inimaginable. On se dit 2000, il y avait quoi, 2000 disparus?
Ah oui.
On peut quasiment dire qu'ils sont morts, là.
Oui, avec le temps, on pourrait dire
ça. Il y a plus, probablement plus de 2000 morts.
Ah oui, on n'a pas... En tout cas, la commission là-bas militaire n'a pas entendu parler encore. Ils essaient de retrouver ces personnes.
Mais qui on blâme?
C'est un dépôt militaire. Il y avait des militaires qui étaient affectés à la garde. Lorsqu'ils ont vu un début d'incendie, au lieu de tenter de... La majorité se sont sauvés en expliquant qu'ils ont eu peur. Je peux les comprendre, mais en même temps... Il y a peut-être une responsabilité au niveau de la négligence, ainsi de suite. En tout cas, ça semble se dessiner dans ce coin-là. Mais la commission devrait faire rapport au département judiciaire bientôt.
Mais ça a donc bien été vite, parce que c'est arrivé au mois de mars. Puis avez-vous vu un sentiment de justice? C'est donc, j'ai l'impression moi, que la justice au Congo, des fois, n'est pas sûre.
Oui, mais c'est bien certain que c'est une commission parlementaire militaire qui est mise sur pied, mais doit faire rapport au judiciaire. Donc, je m'attends au moins que le judiciaire va départager si, comme vous dites, là, il y a peut-être eu une teinte, mais rendu là-bas, moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu une ouverture d'esprit, sauf que j'ai vu une pression énorme de la population parce que c'est dramatique d'avoir autant de personnes décédées dans si peu de temps. Puis, il y a une responsabilité. Le dépôt de munitions, il appartient au gouvernement.
OK.
Ils sont responsables.
On revient sur votre travail spécifique de polygraphiste. Est-ce que... On parlait tantôt de l'avancement de la technologie. Bon, puis là, les machines, c'est un peu compliqué à installer. Pis tout. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de progression de ce côté-là? On va-tu en arriver à un moment donné, peut-être juste avec une prise de sang ou un bracelet ou moins d'électrodes ou de choses comme ça?
Dans le moment, ce qui semble se dessiner, parce qu'il y a des recherches à l'Université de Sherbrooke, entre autres, il y a des professeurs qui font des recherches sur les ondes cervicales, la partie du cerveau qui travaille lorsqu'une personne ment ou dit la vérité. L'Université de Sherbrooke travaille beaucoup là-dessus. Il y a les Américains qui travaille sur ce qu'on appelle, cherche le mot en français, le stress de la voix. J'essaye de vous le dire en français du mieux que je peux. Là, l'inclination, le ton de voix qui change lorsqu'une personne mentirait. Ça aussi, c'est à l'ébauche. Et il y a une composante de plus peut-être qui va s'ajouter bientôt, c'est la dilatation de la pupille qu'on pense que d'ici 5 ans va peut-être être ajoutée à notre polygraphe.
Les interrogatoires, parce que vous êtes expert dans ça aussi, ça doit être un art qui est complètement différent, là, parce que là, votre appareil, c'est votre tête, là. Il n'y a plus de machine.
Oui, effectivement, mais il faut revenir à la base. On a des faits. Hein. Les faits, ça change pas. Moi, je dis tout le temps, c'est des faits, c'est objectif. Vivons avec, sauf que le comportement de l'être humain qui a posé ces gestes-là, lui, c'est subjectif. Donc, on va tenter de chercher et aller chercher le facteur de motivation. C'est ça qui est extrêmement important, qui est différent.
Vous allez devenir son ami?
Sans devenir son ami, on va au moins avoir une qualité. Il faut essayer de développer une empathie pour comprendre pourquoi un être humain, parce que, oublions jamais, hein, ces personnes-là, là, c'est des êtres humains comme nous autres ici, là.
Mm-hmm.
On se regarde, là, nous autres aussi, on espère qu'on dérapera pas. Moi, je dis tout le temps, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont dérapé. Est-ce que c'est momentané ou est-ce que c'est un dérapage qu'ils aiment faire puis que pour différentes raisons ils aiment le faire? Si je peux avoir une ouverture d'esprit, être humain pendant que je le rencontre, je vais avoir une meilleure écoute et je vais avoir une meilleure verbalisation. C'est ça qui est important.
Quel a été le plus long interrogatoire que vous avez fait?
Je vous dirais qu'une de mes plus longues, c'est à peu près 14 heures.
Vous restez dans la pièce?
Oui, mais ça nous permet. On reste dans la pièce, mais on sort pour aller aux toilettes. On fait venir à manger, on mange.
Vous lunchez ensemble?
Ah oui, tout à fait.
OK, donc vous venez pas son chum, mais lui a peut-être un peu cette impression-là, non?
Ben, je vous dirais qu'après, vient au moins la seule oreille qui a cru qu'il pourrait écouter ce qu'il avait à me dire.
OK.
Je sais pas si ça...
Il faut laisser tomber tout jugement, là, devant le pire des crimes. Là.
Tout à fait. Et ça, c'est ce qu'on enseigne à nos jeunes enquêteurs. La première des choses, c'est que vous rentrez dans une salle avec une idée arrêtée ou un préjugé, vous allez aller nulle part. Si on n'a pas d'ouverture d'esprit pour comprendre qu'est-ce qui peut arriver, comment est-ce qu'on peut faire du chemin et démontrer à la personne qu'on est sensible à ses besoins? Être sensible à les miens, mes besoins, ça vaut rien. Être sensible aux siens, parce que c'est lui qui a vécu le drame.
Mm-hmm.
Moi, j'ai juste à l'écouter. Mais s'il faut, vous ouvre la porte pour l'écouter.
le méchant puis le bon policier qui s'alterne. Tu peux aller pour Hiram, dans mon maudit, c'est pas là l'autre arrive. Non, mais écoute, parle-moi. Pis, ouais, ça, c'est-tu c'est encore dans le folklore?
Ouais, c'est vraiment du folklore qui date d'il y a... Je vous dirais, moi, ça fait plus de 38 ans que je fais ça. Là. Au début de ma carrière, j'entendais ça. Là, puis même, il y avait encore certaines habitudes. C'est fini, c'est dépassé, ça fait...
Vous avez de l'air calme, mais vous êtes jamais choqué.
Jamais.
Un bon coup de poing sur la tête, vous avez...
Non. Choqué intérieurement, souvent.
OK, ouais, mais pour non. propulser vers quelque
non,
chose.
Non, non, oubliez ça, oubliez mais ça, jamais.
Est-ce
jamais.
Que vous êtes conseillé, parce que des fois, il faut pour aller chercher la bonne preuve, les bonnes choses, c'est juste votre formation. Des fois, il y a des avocats, là, vous devriez essayer de faire dire telle affaire, parce que ça, en cours, c'est bien plus valide, ou c'est vraiment...
Non, notre formation, par notre formation, on sait ce qui est valide ou pas, on a des cours de droit, mais aller chercher quelqu'un à l'extérieur... Moi, je dis tout le temps, le seul qui peut se prononcer, l'effet que ça fait d'être assis devant un criminel puis lui parler pendant des heures, c'est celui qui l'a déjà fait. Moi, j'entends des, sans être méchant, tous les spécialistes dans différents domaines, en psychologie, en science, ça. C'est de la belle grande théorie. Mais la journée que tu aurais fait s'assis comme faux devant quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis un crime et tu auras passé des heures avec lui, tu débuteras à avoir un petit peu la sensation que ça donne.
Qu'est-ce que c'est, ouais?
Ouais. Parce que sans ça, là.
Mais quand vous êtes, par exemple, ça a pris 8 heures. Là, vous êtes avec depuis 8 heures, puis là, il était fermé, mais là vous avez... Ça doit devenir... parce que là, vous devez rester calme, puis tout ça, mais là, c'est-à-dire que là, je suis au bord de la voie, tu le perds. Ça doit être quand même trillant, un peu, cette partie-là.
Trillant, je vous dirais, c'est... moi, je suis un coureur, j'ai fait beaucoup d'exercices, et puis c'est la même adrénaline que de finir une course ou un demi-marathon. C'est l'adrénaline, la satisfaction, vous dire, ben mon travail sert à quelque chose, puis de penser qu'en quelque part, même mon travail en fonction du citoyen, là, ben je l'ai rempli, puis pas à moitié, tu sais, puis j'ai agi en professionnel, puis quand on voit, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est enregistré audio-vidéo, maintenant, les crimes majeurs, tous les interrogatoires, depuis 1996, quand on présente un vidéo à la cour, puis que le juge ou les jurés voient ça, et voit comment nos enquêteurs travaillent comme des professionnels. Moi, il n'y a pas plus grande satisfaction que ça.
Puis vous avez raison, ça, j'en ai vu des vidéos. On en a vu, on en voit de plus en plus dans les nouvelles. Là. Et tu sais, des fois, je reviens à la question de Dess, ou des fois, à savoir si vous vous choquiez ou quelque chose comme ça. Puis jamais on voit des enquêteurs dans tous les cas qui font face des fois à des débiles, mais ils restent d'un calme fou, puis ça donne rien. Puis ils vont sortir de la pièce régulièrement. Puis il n'y a rien d'énervant qui se passe là-dedans.
Non, vous avez tout à fait raison.
Mais quand vous restez calme là, pendant 10 heures, puis après ça sort, là, vous sortez, bon, ben, hey, je vais aller aux toilettes, je reviens, puis là, vous claquez à la porte, wouh! Enfin!
Ouais, ça arrive. Ça doit peut-être quand pas même, aussi exubérant pas, de ce que je viens de voir, là, mais la satisfaction intérieure est aussi exubérante que ça.
Oui, Marie-Pierre, vas-y.
Ben non, mais je me demandais, ça se passe comment, là? Mettons, après 8 heures ou après 14 heures, là, vous le cuisinez, là, puis là, ça s'en vient, là. Ouais. Est-ce que vous négociez? Est-ce qu'il finit par avouer tranquillement? Ça doit pas tout le temps se passer pareil, là, mais tu sais, est-ce que... Ouais, mais là, si je dis ça, je vais savoir... Est-ce qu'on peut négocier sur mon temps de prison ou je sais pas quoi? Ou à un moment donné, il fait juste faire comme... Oui. Oui, je l'ai fait.
Ça peut être les deux. Ça peut être... Il y a différentes façons. Ça dépend de la personne. Mais souvent, je vous dirais, ce qui est le plus remarquable, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que l'individu a créé, comme vous disiez tantôt, un certain lien avec nous au point de dire, je vais te confier de quoi de lourd. Et j'aimerais que tu me dises ce qui va arriver. En voulant dire, ben, on a juste à lui expliquer. On est d'accord qu'au moment où tu as posé le geste, tu as déjà pensé aux conséquences. Puis ces bonhommes-là, là, quand ça fait 2 semaines, c'est arrivé 3 semaines, 6 mois, 1 an, 5 ans, ils savent qu'il y a des conséquences. On fait juste les mettre sur la table et ils disent, je suis rendu à ça, je vais prendre mes conséquences. Mais à ce moment-là, je vais vous donner un exemple. C'est comme une certaine libération pour eux. Il y en a qui vont être très émotifs, d'autres vont être très rationnels, d'autres vont être plus posés. Mais ils ressortent tous avec une certaine satisfaction de dire, finalement, j'aurais plus besoin d'attendre que ça cogne à la porte, ils vont venir me chercher pour quelque chose.
Ouais.
Tu sais? Puis c'est comme une certaine libération. Et ces bonhommes-là, moi, je me rappelle encore des bonhommes qui ont été en prison en vie, condamnés à vie, et qui m'envoyaient des cartes de Noël. Pour dire, Jacques, que j'espère que ça va bien, moi, tout est correct, puis 3-4 mois dans le temps des fêtes.
Parce qu'il y avait des dettes libérées de ce
puis point. Puis point que ça, on les explique, mais ils savent qu'on va les voir dans le processus, quand ils vont aller à cour.
C'est vrai, parce qu'ils les avaient passé plusieurs heures, mais après ça, vous êtes venus témoigner,
Ils nous voient par la suite.
Si vous aviez été capitaine de bateau, votre rêve aurait été probablement de chauffer le plus gros bateau au monde.
Ouais.
En étant spécialiste en polygraphie comme vous, est-ce que le colonel Williams à Toronto, ce serait pas le cas à examiner? Tu sais, le gars qui avait une vie si parfaite, puis qui était un si tueur...
Un militaire, en plus, dit froid, militaire, détaché. Hein, ouais. C'est un personnage dur à...
Ouais, c'est ben j'ai regardé, j'ai vu son interrogatoire, puis c'est un très bon travail fait par le polygraphiste d'OPP. Mais il y en a eu... Moi, j'ai eu mes années, je n'ai rencontré, je sais pas, peut-être 400-500 tueurs dans ma carrière. Et puis, ils sont tous un défi important. Fait que, non, j'envie rien à personne, puis...
OK, lui, c'est pas le plus grand des manipulateurs.
Non, c'en est un comme parmi tant d'autres.
Mais c'est-tu déjà arrivé où vous étiez sur le bord, vous disiez, OK, là, il va me sortir de quoi, puis vous avez peut-être utilisé les mauvais mots, puis là, il s'est refermé comme une huître, puis ah, là, je viens de le perdre.
Tout à fait.
Ouais?
Ouais, puis plus que ça, je me rappelle avoir eu une verbalisation sur l'implication dans un crime, puis elle disait, ben, j'arrête là, je cherche à savoir où le corps a été, puis l'individu bloque, puis il me dit, avant, j'aimerais parler à mon père. Il a appelé son père, ce que je lui ai permis de faire. Et là, son père, il a dit, regarde, je vais t'aimer pareil, tu te fermes, il a arrêté là, j'ai jamais été capable de trouver le corps, et je vis avec le dossier qui n'est pas semi-résolu, quoi.
Vous n'auriez pas dû permettre l'appel, vous pensez?
Je ne sais pas.
C'est un guess,
moi, ouais, c'est ça. Justement, comme vous dites, c'est un guess. Ça aurait pu être aussi bon que pas bon, ça s'est avéré moins bon. Et faut vivre avec les décisions.
Quand là, vous êtes à la maison avec votre Mona étant toujours notre conjoint de service,
ouais,
avec votre Mona, là.
Ouais, ouais.
Puis là, vous écoutez une nouvelle, vous voyez, mettons, le juge de Lille ou d'autres cas, je veux pas identifier de cas. Avez-vous le réflexe de dire, ah, lui, je le crois, lui, je le crois pas. Avez-vous ce réflexe? Ou c'est trop léger? Tu sais, moi, je les condamne après 10 minutes de nouvelles, là.
Non.
Mais vous attendez. Mais avez-vous quand même le réflexe de dire, je le crois, je le crois pas?
Oui, c'est sûr, c'est certain, mais je suis pas le type d'individu qui va prendre une décision très, très rapidement. Moi, j'aime bien prendre une décision avec l'ensemble des faits, comme je disais tantôt. Je suis bien certain que si c'est de quoi de léger, je vais peut-être me permettre ça, mais c'est très rare. J'aime bien avoir le port... Moi, je dis tout le temps...
Donc, il vous vient d'autres questions,
oui,
j'imagine.
Exactement.
Tu sais, comme moi, là, ils sont en train de démontrer que la femme du juge de Lille, elle s'est pas suicidée, mais j'ai hâte qu'ils vont envoyer « Oui, mais c'est-tu lui? » Tu sais, comprenez-vous, là, moi, je suis dans cette période-là. Là.
Tout à fait. Moi, je veux avoir l'ensemble du portrait. C'est comme un casse-tête. Hein. Même s'il manque une pièce, il manque quand même une pièce.
Okay.
On sait que c'est un cheval, mais j'aimerais bien avoir la tête du cheval, là, tu sais.
Okay. Croyez-vous, là, évidemment, je pense au docteur...
Guy Turcotte.
Turcotte. Là, vous travaillez, vous faites avouer le crime, puis vous sentez peut-être un peu de préméditation dans votre interrogatoire. Venez-vous un peu... Moi, il y a des policiers qui me disent qu'ils travaillent très différemment de vous. Des policiers, plus dans qui arrêtent des petits criminels, des petits voleurs, puis ils savent que 10 minutes après, ils vont être relâchés. Vous, quand vous voyez quelqu'un d'être tenu non criminellement responsable, puis on a fouillé l'autre jour, puis on a trouvé un paquet. Là, on pense que Guy Turcotte, c'est le seul, puis il a un maudit paquet. Mais
ah
ben, tu sais, non criminellement responsable, c'est un médecin, tu sais, il était juste en dépression. Vous, vous voyez ça comment, ça?
Moi, je vois ça toujours en respect des règles de droit, hein, puis je suis pas avocat, mais j'ai été à court assez souvent pour savoir qu'il y a des règles et puis la Constitution, la Charte, les droits puis la jurisprudence ont balisé ça. Ils ont mis des barrières. Et il est rentré dans ces barrières-là.
Oui, mais tous les meurtriers que vous avez rencontrés, au moment du meurtre, ils devaient être fous un peu, là. Tu sais, il y a quelque chose qui marchait pas bien dans leur tête.
Moi, je dirais pas fou. Au contraire, puis vous seriez surpris de voir comment des personnes prennent des décisions. Au lieu d'être fou, c'est qu'ils contrôlent pas un aspect de l'être humain. Nous autres, moi, je dis tout le temps, un être humain, il y a 3 composantes, hein. On a nos valeurs. On est éduqué, on a de l'éducation, on est élevé, on a des amis. Deuxième chose, on a un comportement qui va avec nos valeurs habituellement. Et la troisième, par exemple, c'est là la plus dangereuse, c'est que c'est des émotions. On est contrôlé par ça. Le plus bel exemple, là, souvent, ça vous arrive avec la circulation un peu partout, là. Autant, un matin, je regardais rentrer à Québec, là.
Mm-hmm.
Ça arrive de 8 voies, puis tombe à 2, 3. Tout le monde cherche à arriver avant l'autre. Il y en a qui choquent, là, puis d'un coup, des droits d'honneur se font, puis là, il y en a un qui débarque, puis bing, bang, bang.
Mm-hmm.
On est d'accord que ce monsieur-là, cette madame-là, là, 1h20, est en train de prendre son café avec sa femme, puis tout est beau, là.
Mm-hmm.
Mais là, à cause des émotions, boum! Hein, il réagit en, sans être trop...
Mais il est responsable de gérer ses émotions.
Ouais, mais c'est pas trop évident de gérer ça.
Une émotion, là. Des bars, des fois, je pense, là, des
tout
gars,
le
mais normaux, puis là, sont au bar, là, un peu coquilles, finissent par se battre, puis il y en a un qui meurt.
Ouais, exactement. Imaginez-vous,
puis
ce monsieur-là.
C'était
un monsieur, ouais, mais c'était un monsieur tout le monde, ça, ce matin-là, là. N'importe qui, on va choquer, des fois, sur certains propos, un agissement, on choque. Ouais, c'est ridicule.
Avez-vous des enfants?
Oui.
Est-ce que quand le père dit...
Prochaine question.
Mon fils...
À quelle heure t'es rentré?
Viens t'asseoir... Là, il dit, il te répond quoi, puis il s'en va dans sa... Non, 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 viens t'asseoir ici. Là, il dit, ah, tabarouette, je suis pas sorti d'ici.
Ouais, j'ai des enfants, des petits-enfants, ouais. Puis je peux vous dire oui. Puis la même chose, je suis certain que vous faites la même affaire avec vos proches ou autres. Quand il y a des comportements qui changent, vous êtes déjà... Vous autres peintres des petits polygraphes, vous savez quand ouais. Le comportement vous oriente avec ah, hey, ça semble pas. Ça semble
mais
pas
ça doit les inquiéter, vos enfants?
Non, du tout. Non? On essaie, avec l'honnêteté, là, on passe par.
Carl du poulet, là, on a pour un petit bout, là.
Est-ce que les. Et on terminera avec ça. Est-ce que les filles.
Ben, ma question, c'était un peu dans la vie personnelle, là. La journée que vos enfants sont arrivés avec des blondes puis des chums, là, avez-vous envie de.
Les passer au test?
Dire à votre femme, OK, non, celui-là, ça marche pas. Puis elle, a fait comme, ben non, OK, calmez-vous, là, calmez-vous.
Non, je le sens.
Est-ce que c'est de même? Est-ce que ça se transpose en. C'est une déformation professionnelle?
Non, pas à ce point-là. Non, on y pense, c'est bien certain qu'on est préoccupé. Encore une fois, c'est les émotions. Quand on aime quelqu'un, on veut le protéger, hein, ouais. On espère le mieux, c'est bien certain. Et vous êtes une petite famille ici, vous tiriez la pipe tantôt, mais vous aimez beaucoup. Puis c'est des émotions, c'est la même affaire. Fait que c'est la même chose. On essaie de les protéger, mais il ne faut pas pousser trop loin parce que qu'est-ce que ça va faire? Ben, on va se perdre. Hein. On va se perdre, ça sert à rien.
Est-ce qu'il y a des, juste pour une minute, là, des trucs simples pour qu'on se rende compte que quelqu'un mange? J'attendais de se gratter le bout du nez. Ou est-ce qu'il y a des choses aussi simples que ça où on peut dire, ah, ça, c'est un bon signe?
Non, je vous dirais, moi, que premièrement, vous savez qu'il n'y a aucune étude scientifique qui vient supporter le langage non-verbal comme étant fiable, qu'on se gratte le nez ou qu'on regarde la terre ou autre. Parce que ça peut être même culturel. Je ne sais pas si vous savez, il y a des cultures asiatiques ou même amérindiennes. Par respect, si vous êtes plus âgé, ils ne vous regarderont pas dans les yeux. C'est pas parce qu'ils ont de quoi cacher, c'est du respect. Okay. Donc, on n'en tirera pas d'inférence. Mais je vous dirais, par expérience, encore une fois, c'est vraiment empirique, oui. C'est mon expérience. Quand tu poses une question, puis le temps de réflexion, là, il est différent. Là. C'est comme si, je fais une petite analogie bien plate, là, on vient de mettre de l'argent des anciens parcomètres, on dirait que ça tombe pas dans le fond, là, ça.
C'est plus
t'es obligé de réfléchir une demi-heure.
Ouais, qu'est-ce que tu disais, là? Ouais, puis ça, ouais. On a donné le temps de...
Ceux-là, là.
Mais, ça, c'est un truc de fille, ça.
Ouais.
Quoi?
Hein? Ouais.
T'as pas compris? Moi, je Elle tire son gant.
Je tiens à dire que c'est pas moi qui l'ai dit, ça, je vois.
Non, mais est-ce que les gars, y a-t-il une différence entre les gars et les filles face aux mensonges?
Une non légère. Les femmes, sont meilleures à détecter le comportement de l'être humain. Meilleures.
Okay.
Ça veut pas dire que les hommes.
Fait que dans votre équipe, je voyais dans votre équipe, là, Linda Lemay, vous ouais. En avez des femmes qui travaillent avec
oui,
vous.
Oui, oui. Ils sont vraiment excellents. Et, la seule autre chose, c'est lorsqu'on les rencontre, elles sont beaucoup plus portées sur les émotions rapidement.
OK.
C'est les seules différences.
Est-ce qu'on sont plus faciles à détecter?
Je dirais que non, pas plus facile. Ils peuvent utiliser les émotions à leur avantage. Faut faire attention aussi.
Ça a l'air que s'ils font les interrogatoires au centre d'achat, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est libre. Eh hey, bien, monsieur Landry, ça fut fort intéressant. Merci d'être passé nous voir à Québec. Vraiment content de vous avoir rencontré. Jacques Landry, polygraphie Jacques Landry.